الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذا اليوم هو أول أيام شهر شعبان من عام 1440 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الدرس التاسع من شرح كتاب مسائل الجاهلية لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. Nous sommes le 6 avril 2019 et nous voici réunis pour le 9e cours de l'étude du livre intitulé مسائل الجاهلية, les pratiques de l'ère pré-islamique de l'auteur Mohammed fils de Abdul Wahhab, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Nous sommes arrêtés lors de la dernière assise lorsque l'auteur rahimahullah ta'ala nous disait que parmi les pratiques des gens de l'ère pré-islamique, le fait d'ajouter dans l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala et aussi le fait de diminuer. Et lors de cette question particulièrement, je voudrais revenir sur quelque chose que j'avais dit qui était incorrect. Vous vous souvenez que nous avions dit que le peuple de Quraysh délaissait, lors de l'accomplissement du Hajj qu'il faisait, il délaissait la station à Arafah. Il n'allait pas à Arafah, qui est un des rites du pèlerinage, un des plus importants d'ailleurs, et il restait à Muzdalifa. Je vous avais dit qu'ils agissaient ainsi car Arafah était dans la limite sacrée et eux disaient que par prudence, ils préféraient ne pas entrer dans le territoire sacré, c'est-à-dire afin de ne pas y commettre des péchés, et que cela faisait partie de leur exagération dans la prudence au point de délaisser ce qui est obligatoire. Si ce n'est que l'erreur vient dans le fait que c'est Muzdalifa qui rentre dans le territoire sacré et pas Arafah. Et qu'en réalité, lorsqu'ils refusaient d'aller à Arafah, c'est parce qu'à Arafah, on n'est plus dans le territoire sacré. Et eux voulaient rester dans le territoire sacré. Donc, prenez compte de cette erreur. Et corrigez-la dans vos esprits, incha'Allah. Taïeb. Et elle sera enlevée du précédent audio, incha'Allah. Ceci étant dit, l'auteur, rahimahullah, a dit Al-mas'alatani thaniya wa thalithatu wa sab'un. Les questions 72 et 73. Ta'abuduhum bitarki tayyibati min al-rizq wa tarki zinati fil libas. Les gens de l'époque pré-islamique avaient pour habitude de croire que délaisser certaines bonnes choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendues licites et aussi délaisser les belles parures comme les vêtements et autres qui sont bonnes et qui sont rendues par Allah subhanahu wa ta'ala licites, ils avaient pour habitude de croire qu'à travers cette manière d'agir, ils adoraient Allah. Ils pensaient que cela les rapprochait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela fait partie de l'exagération de ces gens. Et il est connu, on le retrouve dans le Coran, que le peuple de Quraysh et les gens de l'époque pré-islamique avaient pour habitude de se rendre ou de s'interdire des choses rendues licites par Allah, telles que les vêtements, la parure, comme vous l'avez entendu lorsqu'ils allaient accomplir le pèlerinage, et qu'ils s'approchaient de la Mecque, ils enlevaient leurs vêtements avant de rentrer dans la Mecque. Et si les gens de Quraysh avaient des vêtements à leur prêter, ils le faisaient, sinon, ils tournaient autour de la Kaaba et faisaient le tawaf complètement dévêtus. Et Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé dans le Coran leurs agissements et les agissements de tous ceux qui s'interdisent ce qui a été rendu licite par Allah, pensant se rapprocher d'Allah à travers ses actions. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ. dit, en s'adressant à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, dans le sens du verset, dit, c'est-à-dire à ces gens-là, qui a interdit la parure d'Allah qu'il a fait sortir pour ses serviteurs, ainsi que les bonnes choses de la subsistance. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala blâme les gens qui agissent ainsi. Également, Allah azza wa jalla a dit, Ya ayyuha alladhina amanu, ô vous qui avez eu la foi, la tuharrimu, écoutez bien, ne déclarez pas interdit ou n'interdisez pas, la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum, ne vous interdisez pas les bonnes choses qu'Allah vous a rendues licites. Cela fait partie de l'exagération des gens de l'ère pré-islamique dans lesquels ils ont été suivis par les adeptes du soufisme de notre époque, qui n'hésitent pas à rendre des choses licites interdites, en pensant se rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le shir Salih al-Fawzan, hafidhahullahu ta'ala, nous dit, « Ey, taqarrubuhum ilallahi bitarki tayyibati minal rizq, wa tarki libasi zina. » وهذا عند النصارى ومن شابههم من الصوفية المنتسبين للإسلام. Nous retrouvons ces agissements chez les chrétiens notamment, mais aussi ceux qui les prennent en exemple parmi les gens du soufisme qui s'affilient à l'islam. يتركون الطيبات تعبدا لله عز وجل. فلا يتزوجون النساء ولا يأكلون من الطيبات. وَيَتَقَشَّفُونَ فِي الْمَآكِلِ وَالْمَشَارِبِ وَالْمَلَابِسِ. Ces gens-là n'épousent pas de femmes. On le retrouve dans le christianisme. Dans le christianisme, il y a certaines personnes qui ne se marient pas, hommes et femmes, en pensant avoir voué leur vie à l'adoration. Ils pensent donc que ne pas se marier, et donc ne pas faire d'enfants, est une adoration qui les rapproche d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Or, cette chose-là est détestée car se marier est une chose licite, plus encore, c'est aimé d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ainsi, toute personne qui se rend interdit ce qu'Allah a déclaré licite suit les pas des gens de l'époque pré-islamique parmi les chrétiens et de notre époque parmi les gens du soufisme. وَيَزْعُمُونَ أَنَّ هَذَا عِبَادَةٌ لِلَّهِ. Ils pensent que cet agissement est une adoration pour Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donc annulé ces agissements dans plusieurs versets. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé dans le Coran de ceux qui se rendaient interdits certaines catégories des bestiaux. Il disait, seuls ceux-ci sont pour Allah, ceux-là sont pour les divinités. Ou alors ils interdisaient de toucher à certaines parmi les bêtes, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Uhillat lakum bahimatul an'am » Vous ont été rendus licites les bestiaux. Vous ont été rendus licites. C'est une catégorie particulière de bestiaux, bahimatul an'am. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, « Ya ayyuha alladhina amanu, la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum, wa la ta'tadu. » Ô vous qui avez eu la foi, n'interdisez pas les bonnes choses, vous ayant été rendus licites par Allah, et ne transgressez pas. « Inna allaha la yuhibbul mu'tadin. » Allah n'aime pas les transgresseurs. Ainsi, rendre interdit ce qui est licite est une des actions de l'époque, des gens de l'époque pré-islamique, comme les chrétiens et ceux qui leur ressemblent. Et cela fait partie de la religion de la jahiliya. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et le shir Salih al-Fawzan hafidhahullah ajoute à cela, « وَمَنْ حَرَّمَ حَلَالًا مُجْمَعًا عَلَى حِلِّهِ اِرْتَدَّ عَنْ دِينِ الْإِسْلَامِ » Et quiconque déclare interdit quelque chose qui est reconnu licite unanimement aura alors apostasié. Il a apostasié pourquoi? Parce qu'il a contredit la parole d'Allah. Allah tabaraka wa ta'ala a rendu licite et lui a déclaré illicite. Il s'est donc opposé clairement à la à au jugement d'Allah Azza wa Jal. Pour cette raison, le Cheikh a dit haram halalan mujma'an ala hilleh. Quiconque rend interdit une chose reconnue unanimement licite. Des choses où il n'y a pas de divergence. Car dans certaines, il peut avoir divergence dans le jugement porté sur une action, sur une chose. Mais lorsqu'il y a unanimité et que cette chose est connue par tous, par preuve claire dans son caractère licite, et que quelqu'un s'y oppose, en cela c'est de la mécréance. Wallahu al-musta'an. Et le Cheikh Saleh al-Fawzan, hafidhah Allah ta'ala, nous rappelle les agissements de certains qui, à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, refusaient de se marier, refusaient de manger pour jeûner chaque jour et refusaient de dormir pour veiller en prière. Quand le prophète alayhi salatu wassalam a entendu cela, il les a interpellés en leur disant: est-ce vous qui avez telle et telle chose? Ils répondirent oui. Le prophète alayhi salatu wassalam leur dit que quant à lui, il prie, il dort, il mange, il jeûne et il épouse les femmes, et quiconque ne suit pas sa sunna ne fait pas partie de lui, alayhi salatu wassalam. Là, nous parlions de délaisser des bonnes choses rendues licites par Allah. La deuxième question était le fait de délaisser les belles parures, de délaisser la parure, comme se couvrir la aura, ou tout ce qu'il y a de bon comme vêtements, chose qui était délaissée par ceux de l'époque pré-islamique qui venaient, comme nous l'avions dit tantôt, accomplir le tawaf alors qu'ils étaient dévêtus. Ils étaient complètement dévêtus, et Allah Azza wa Jal a dit: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الْآيَةِ. Dit: qui a interdit la parure d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et ça, on le retrouve aussi dans le soufisme et dans ceux qui suivent leurs égarements, alors que le prophète alayhi salatu wassalam aime voir l'effet de ses bienfaits sur son serviteur, tant bien dans la foi, dans la piété, que physiquement, dans les vêtements, dans sa tenue et autres. قال رحمه الله تعالى الأوتار نودي أنسويت المسألة الرابعة والسبعون لا question 74 دعوتهم الناس إلى الضلال بغير علم. Ils appelaient les gens à l'égarement sans science. Et la question suivante المسألة الخامسة والسبعون la question 75 دعوتهم إياهم إلى الكفر مع العلم. Ils appelaient les gens à la mécréance avec science. Donc dans la première, ils appellent les gens à l'égarement sans science, et dans la seconde, ils appellent les gens au kufr avec science. والعياذ بالله. Et comme vous le savez, l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala fait partie des choses fondamentales dans l'islam. Cela consiste à inviter les gens à réaliser le but pour lequel ils ont été créés. Inviter les gens à adorer Allah seul et sans associer subhanahu wa ta'ala. Mais l'appel à Allah ne se fait pas sans connaissance. Car celui qui appelle à Allah azza wa jal sans connaissance va détruire plus qu'il ne réforme et égarer plus qu'il ne guide. Il faut donc avoir la servitude comme la clairvoyance, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. الآية dit: voici ma voix, j'invite à Allah avec clairvoyance. عَلَى بَصِيرَةٍ, avec clairvoyance. Et ce terme basira, que l'on a traduit par la clairvoyance, à la base, chez les Arabes, ce terme est utilisé lorsque le chasseur a atteint le gibier, mais qui n'est pas encore mort. Ce gibier va prendre la fuite. Mais qu'est-ce qu'il va laisser en chemin à chaque pas qu'il fait? Des traces de sang. Ces traces de sang sont appelées par les Arabes basira. Pourquoi? parce que le chasseur va suivre ces traces de sang qui vont le mener jusqu'à ce qu'il recherche, qui est le gibier. Al-Basira dans l'appel à Allah, Al-Basira dans la religion, c'est la science dont tu as besoin pour te mener au but recherché. Cela a été expliqué par l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dans son écrit Risalatu Ibn al-Qayyim ila Ahadi Ikhwani, la lettre de l'imam Ibn al-Qayyim à l'un de ses frères, en expliquant le verset. Le Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala dit: فدعوتهم الناس إلى الضلال أي ترغيب الناس في ترغيب الناس في مخالفة الحق. Ils invitent les gens et les encouragent à contredire la vérité. وقال كما قال الله عز وجل وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. Dans le sens de la sourate Al-Ankabut du verset, il nous dit subhanahu wa ta'ala: et ceux qui ont mécru, dire à ceux qui ont eu la foi: suivez-nous donc, nous porterons alors vos péchés. Wal'iyadhu billah. Et ça, c'est un égarement sans le moindre doute et une ignorance de leur part. Comment peux-tu dire à quelqu'un: suis-moi, je porterai tes péchés? Si ce n'est à cause de l'ignorance de qui est Allah et de ce qui l'adviendra de chacun le jour dernier. Le Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah, a dit: فَيَدْعُونَهُمْ إِلَى الشِّرْكِ وَإِلَى تَحْرِيمِ الْحَلَالِ وَتَحْلِيلِ الْحَرَامِ بِغَيْرِ حُجَّةِ وَيَدْعُونَهُمْ إِلَى أَشْيَاءِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ فَهَؤُلَاءِ دُعَاةُ ضَلَالِ وَالدُّعَاةُ إِلَى الْحَقِّ هُمُ الَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَإِلَى مَا شَرَعَ. Ces gens invitent les gens au shirk et à déclarer illicite l'illicite et illicite le licite sans aucune preuve ni argument. Ils les appellent à des choses pour lesquelles Allah n'a fait descendre aucune preuve. Voici ceux qui appellent aux faux, les prêcheurs aux faux. Quant aux prêcheurs à la vérité, ils appellent à ce qu'Allah a légiféré. Et les prêcheurs de l'égarement de notre époque, comme ceux qui appellent au shirk ou qui appellent à l'adoration des tombes, ils appellent aussi à l'innovation en matière de religion. Ils vont même jusqu'à rédiger des livres appelant au shirk, appelant à faire revivre les innovations qu'ils propagent, wal'iyadu billah. Ces gens-là sont les prêcheurs au faux et à l'égarement, contre lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le verset: Ya ayyuhal ladhina amanu, in tuti'u alladhina kafaru, yaruddukum ala a'qabikum, fatanqalibu khasirin. Ô vous qui avez eu la foi, si vous obéissez à ceux qui ont mécru, ils vous feront revenir sur vos pas. Vous deviendrez alors perdants. Après avoir suivi la vérité, si vous suivez ces gens, ils vous détourneront du chemin d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le tawhid, dans la sunnah, et dans toute guidée et égarement. Lorsque la personne est sur une guidée, avec preuve du Coran et de la sunnah, et qu'elle accepte de suivre quiconque voudrait les appeler à une autre voie, sans preuve claire du Coran ou de la sunnah, alors cette personne-là ressemblerait aux gens qui ont eu cet agissement dans l'époque pré-islamique. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi: Ya ayyuhal ladhina amanu, in tuti'u fariqan minal ladhina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Ô vous qui avez eu la foi, si vous obéissez à une partie des gens du livre, ils vous feront revenir à la mécréance après votre foi. Également, Allah Azza wa Jal dit: Ulaika yad'una ila an-nar. Cela appelle à l'enfer. Wallahu yad'u ila al-jannah. Et Allah appelle au paradis. Et Allah Azza wa Jal dit aussi: Wa in tuti' akthara man fil ard yudilluka an sabilillah. Et si tu obéis à la majorité des gens de la terre, ils t'égareront de la voie d'Allah. إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. Ils ne font que suivre les conjectures. Ils ne sont pas sur une certitude. Ils ne sont pas sur des preuves du Coran, de la Sunna. Ils ne sont pas sur le Haqq avec conviction. Ils ne font que suivre des conjectures, des pensées, des idées, des émotions. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. Et ils ne font que parler sans science. وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ. Voici un des agissements des gens de l'époque. Ils appelaient à l'égarement sans connaître. Non seulement en eux-mêmes, ils étaient ignorants et agissaient dans l'ignorance en innovant dans la religion d'Allah notamment, ou en faisant des choses interdites. Mais en plus de cela, ils invitaient les gens à suivre cet égarement. Et dans la suivante, da'watuhum iyyahum ila al-kufri ma'a al-'ilm, ils appelaient les gens à la mécréance en pleine connaissance de cause. Ils savent en eux-mêmes qu'ils sont dans la mécréance. Ils savent en eux-mêmes qu'ils sont dans le faux. Il ne s'agit donc pas d'ignorance, mais ils appellent les gens dans ce faux en pleine connaissance de cause. Wal'iyadu billah. Et cet état, c'est notamment l'état retrouvé chez les gens du livre, particulièrement dans le christianisme, chez les moines, et aussi dans beaucoup de gens de cette époque, comme ceux du soufisme, et tous ceux qui ont ce genre d'agissement, peu importe le domaine. Al-Sheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, nous dit qu'il s'agit ici d'une autre partie parmi les gens appelant à l'égarement. Ces gens qui distraient les gens de la vérité et les en écartent par obstination. On ne parle pas ici d'ignorance comme nous l'avions dit. La première catégorie tantôt citée sont des gens qui appellent à l'égarement en pensant peut-être être dans le vrai. Ils sont ignorants. Et la deuxième catégorie, ce sont des gens qui appellent au faux en sachant qu'ils appellent au faux et qu'ils sont dans le faux. Et ces deux catégories de personnes, nous dit le Cheikh Al-Fawzan, sont dangereuses. Car ils ne disent pas aux gens, mais croyez. Ils ne disent pas aux gens, suivez l'égarement. Ils ne disent pas aux gens, venez au shirk. Ils ne disent pas aux gens, venez à la mécréance. Mais ils donnent des belles paroles aux gens. Ils disent qu'ils sont dans la vérité. Ils disent que c'est le secours de la sunna qui les pousse à agir ainsi. Ils disent que c'est l'amour des ulamas, n'est-ce pas? Ils disent que c'est l'amour des savants qui les pousse à agir ainsi. Et en réalité, à la fin, ils appellent au dalal, à l'égarement. Soit par ignorance, car ils ne font que conjecturer et parler sans science, comme Allah Azzajal l'a dit, soit par obstination. Ils savent qu'ils sont dans le faux, mais l'orgueil les empêche de revenir au vrai et d'être modeste devant la vérité légiférée par Allah subhanahu wa ta'ala. Iblis a connu la vérité, nous dit le Cheikh Al-Fawzan. Il a connu la vérité d'Allah tabaraka wa ta'ala, et pourtant, il s'y est opposé et a appelé les gens à la contredire. Wal'iyadu billah. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, nous dit, Al-Mas'alatu sadisatu wa sab'oun, la question 76, Al-Makru al-Kubbar, كفعل قوم نوح عليه السلام. La grande ruse, telle que celle du peuple de Nuh. Et ce que l'on appelle al-makr, c'est, comme nous dit le Cheikh Al-Fawzan, إيصال المكروه بطريقة خفية. C'est le fait d'atteindre quelqu'un d'un mal de façon discrète. La ruse. La personne qui ruse ne te regarde pas dans les yeux en face à face et vient en venant te faire un mal. Mais plutôt, elle te fait, comme on le dit, par derrière. Elle t'atteint d'un mal, elle t'apporte une nuisance sans que tu ne t'en rendes compte, sans que tu ne t'y attendes. C'est ce que l'on appelle al-makr, la ruse. La ruse a plusieurs niveaux de gravité. Et le Cheikh Abdelrazak ibn Abdel Mohsin al-Badr, hafidhahullah, nous dit que la pire des ruses, c'est le fait de planifier dans le but d'égarer les gens. Le fait de mettre au point des plans, des stratagèmes, des chemins à suivre, dans le but au final d'amener les gens au shirk, d'amener les gens au kufr. Et bien sûr, vient juste en dessous, le fait de mettre en place des ruses, des stratagèmes, dans le but d'amener les gens à l'innovation. Et suit après les stratagèmes pour amener les gens au péché majeur et ainsi de suite, selon les gravités des actes interdits commis. Et le Cheikh Al-Fawzan nous dit qu'il y a deux degrés, deux niveaux de ruse. Il y a celle que l'on appelle al-makr al-hasan, la bonne ruse, et il y a celle que l'on appelle al-makr al-sayyi, la mauvaise ruse. Et quant à la mauvaise ruse, nous dit le Cheikh, c'est le fait d'attendre la personne d'un mal alors que elle ne le mérite pas. Quand on dit elle ne le mérite pas, c'est-à-dire il ne convenait pas de lui faire un mal entre la créature et l'autre. Mais on ne parle pas de ce qu'Allah décrète. On ne s'oppose pas à ce qu'Allah décrète ni à la sagesse d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. C'est une parenthèse importante. قال تعالى في قوم نوح عليه السلام ومكروا مكرا كبارا. الله عز وجل a dit au sujet du peuple de Nuh, et ils firent preuve d'une grande ruse. وقالوا لا تذرن آلهتكم, et ils dirent n'abandonnez jamais vos divinités, jusqu'à la fin du verset, ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. Et n'abandonnez pas, il cita les cinq divinités, et ils dirent ensuite, et ils ont beaucoup égaré. Wal'iyadhu billah. Ainsi, le fait de montrer ce qui est moche comme beau, et ce qui est beau comme moche, fait partie de la grande ruse qui est suivie depuis la dernière époque jusqu'à la nôtre. Tout ceci dans le but de dévier les gens du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à ce que l'on appelle al-makr al-hasan, la bonne ruse, c'est le fait d'atteindre une quelconque personne d'un mal et cette personne le mérite. Allah azza wa jalla a dit وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, et il ruse, et Allah ruse, et Allah est le meilleur en ruse, subhanahu wa ta'ala. Il ruse dans le mal, Allah ruse dans le bien. C'est ça qui est voulu. Car il y a une mauvaise ruse, celle des gens, et une bonne ruse, celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'est pas injuste. Alhamdulillah. Ensuite, l'auteur rahimahullah dit, Al-mas'alatu sabi'atu wa sab'un, la question 77, Anna a'immatahum imma alimun fajir, وإما عابد جاهل كما في قوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. Le point numéro 77, l'auteur rahimahullah nous dit que leur imam, c'est-à-dire les gens, que ces gens de l'ère pré-islamique prenaient en modèle, en exemple, et suivaient, était l'un d'entre eux, l'un d'entre les deux suivants. Soit un savant pervers, ou alors, un adorateur ignorant. Les guides que ces gens prenaient ne sortaient pas de l'une des deux, de ces deux catégories. Soit ils prenaient en exemple, en modèle, en dirigeant un savant perverti, un savant qui connaît les jugements d'Allah Azza wa Jal, mais ne les applique pas, et appelle les gens à autre que leur application, Ou alors, il prenait en modèle un adorateur, quelqu'un qui était dévoué à l'adoration, qui avait des actes d'adoration, mais qui agissait par ignorance. Il était donc ignorant, il ne connaissait pas le haqq. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le sens rapproché du verset, alors qu'un groupe d'entre eux, après avoir entendu et compris la parole d'Allah, la falsifièrent sciemment. De qui est-ce qu'il parle ici? Subhanahu wa ta'ala, al-alimul fajir, du savant pervers. Il a pris connaissance de la vérité émanant d'Allah, Azza wa Jal, et en pleine connaissance de cause, non pas par erreur, il lui a donné une interprétation qui n'est pas la sienne, qui n'est pas celle voulue par Allah. Comme les imams de la bid'a dans les noms et attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui s'efforcent de donner des interprétations tout aussi erronées les unes que les autres, lorsqu'Allah Azza wa Jal nous parle de ses noms et attributs, lorsqu'il se présente à nous en disant qu'il est élevé au-dessus des cieux, en disant qu'il a deux mains, en disant qu'il a un visage, ils prennent connaissance de ces versets et leur donnent une explication qui n'est pas la leur. Et de même, toute personne qui connaît le haqq, qui connaît la vérité, il lui donne une autre interprétation que celle qui est voulue. Dans le sens rapproché dans la suite, et quand ils rencontrent des croyants, ils disent « Nous croyons ». Et une fois seuls entre eux, ils disent « Allez-vous confier aux musulmans ce qu'Allah vous a révélé pour leur fournir ainsi un argument contre vous devant votre Seigneur ? Êtes-vous donc dépourvu de preuves ? Ne savent-ils pas qu'en vérité Allah sait ce qu'il cache et ce qu'il divulgue ?» Et ensuite, « Et il y a parmi eux des illettrés qui ne savent rien du livre, hormis des prétentions, et ils ne font que des conjectures. » De qui est-ce qu'il parle ici, subhanahu wa ta'ala ? Al-abid al-jahil, de l'adorateur, du dévot, qui est ignorant, qui n'a pas de science. Et ce sont ces gens-là qui étaient pris pour guides dans l'époque pré-islamique et qui le sont encore dans la nôtre. Par les gens du faux. Voyez que les gens du faux ne font que suivre soit un savant perverti qui est dans le faux, qui connaît mais qui ne suit pas, ou alors un ignorant adorateur. Et le Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit qu'Allah Azza wa Jalla a dit ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, en parlant des gens du livre, qu'ils ont fait de leurs moines et leurs rabbins des seigneurs en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment cela? Car cela, ces gens cités dans le verset déclaraient licite l'illicite et le contraire aussi, et les autres les suivaient dans cela. Et ces gens-là étaient soit des savants égarés qui connaissaient les jugements mais les contredisaient sciemment, ou alors des adorateurs ignorants. Et leur falsification des textes, on en a déjà parlé, soit ils changent les mots, ou alors les sens, ou alors ils ajoutent une lettre, ou enlèvent une lettre dans les mots, ou changent les voyelles. Tout ça amène à donner une interprétation à leur guise, pas celle qui est voulue par Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'ignorant, comme nous l'avons dit, détruit plus qu'il ne construit, égare plus qu'il ne guide, casse et détruit plus qu'il ne réforme. Wallahu azza wa jalla al-musta'an wahdahu la sharika lah. L'auteur rahimahullah dit ensuite al-mas'alatu al-thaminatu wa-sab'un, la question 78. Dans le livre que j'ai entre mes mains, la question 78 est le fait qu'ils prétendaient qu'Allah les aime. Da'wahum mahabbat Allah. Ou plutôt, qu'ils prétendaient aimer Allah. Ma'atarkihim shara. Tout en délaissant ses prescriptions. Fatalabahum Allahu biqawlih. Qul in kuntum tuhibbun Allah. Allah Azza wa Jalla leur demanda alors dans le sens du verset, dit « Si vous aimez Allah, fattabi'uni yuhibbukum Allah. » Suivez-moi donc, Allah vous aimera. Mais dans d'autres écrits de cette risala, de cette épître, on trouve, Wallahu a'lam, que la question 78 est « Da'wahum annahum awliya'ullah min dunin nas » leur prétention qu'ils étaient les alliés d'Allah en dehors des gens. Quoi qu'il en soit, ces deux questions sont très rapprochées. Et pour résumer les deux, il s'agit du fait que ils disent « Nous sommes alliés d'Allah, proches d'Allah, Allah nous aime. » Et aussi ils disent « Nous aimons Allah. » Au point où ils allaient même jusqu'à dire que seuls eux allaient entrer au paradis. Wal'iyadu billah. Et toutes ces choses-là sont des égarements que l'on retrouvait chez les gens du livre. Et Allah Azza wa Jal a fait descendre un verset qui a été surnommé par les savants par le nom de Ayatul Mihna, le verset du test ou le verset de l'épreuve, en leur disant « Qul in kuntum tuhibbun Allah » dit « Si vraiment vous aimez Allah, fattabi'uni, suivez-moi, voici le vrai indice montrant que tu aimes Allah et qu'Allah va t'aimer, puisque dans la suite, yuhibbukum Allah, Allah vous aimera. » Il vous pardonnera aussi vos péchés et il est certes pardonneur et miséricordieux. Pour cette raison, certains parmi les salafs disaient « Laysa sha'nu an tuhibba, walakinna sha'na kulla sha'ni an tuhabba. » L'important n'est pas que tu aimes, tu dises « aimer Allah ». Tout le monde le dit, juif, chrétien, tout le monde le dit. Mais l'important est que tu sois aimé de lui. Subhanahu wa ta'ala. Et tu ne peux être aimé de lui que si tu suis ce qu'il a prescrit. Et ce qu'il a prescrit, ce sont ses ordres et ceux de son prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Donc, comme nous dit l'auteur, rahimahullah, ils prétendent aimer Allah tout en délaissant ses prescriptions. Ce verset a montré la fausseté de leurs prétentions. Car celui qui dit aimer va suivre son bien-aimé. Surtout s'il s'agit d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce verset qui a tranché dans la question et qui a fait la différence entre les véridiques dans l'amour pour Allah azza wa jal et Allah et les menteurs. L'auteur rahimahullah dit ensuite « Al-mas'alatu al-tasi'atu wa sab'un » La question 79. تمنيهم الأماني الكاذبة كقولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وقولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. Ils avaient de faux espoirs. Ils avaient des espoirs mensongers. Comme quand ils disaient le feu ne nous touchera que quelques jours. Nous avons désobéi, nous savons que nous lui avons désobéi, nous risquons pour cela le feu, mais le feu ne nous touchera que quelques jours. Et même si c'était vrai, qui pourra supporter le feu quelques jours? Subhanallah. Et ces gens-là disaient, le feu ne nous touchera que quelques jours. Également, ils dirent, n'entreront au paradis que les juifs et les chrétiens. Voici comment il disait. Seuls nous allons entrer au paradis, et si nous entrons en enfer, alors on ne sera touché que quelques jours. Ça sera un instant déterminé. Seulement, ce ne sont que des prétentions. Et le fait de prétendre être aimé d'Allah, et que l'on va entrer au paradis, l'on va être protégé du feu, et que si on entre au feu, ça ne sera que pour un court instant. Toutes ces prétentions sont des fausses prétentions mensongères. Et celui qui est véritablement allié d'Allah et proche d'Allah Azza wa Jal, il lui obéit. Pour cela, on retrouve dans le hadith très célèbre, nommé par les savants, hadith al-Wali, le hadith du Wali, de l'allié d'Allah, dans le hadith Qudsi, où Allah Azza wa Jal dit, « Man aada li waliyan faqad adhantuhu bil harb. » Quiconque se fait l'ennemi de l'un de mes alliés, je lui déclare la guerre. ce qui va venir après est la description de l'allié en question. Il nous dit subhanahu wa ta'ala, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّ افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Et mon serviteur ne s'est pas rapproché de moi par quelque chose de meilleur que ce que je lui ai prescrit, c'est-à-dire de façon obligatoire. La meilleure façon de se rapprocher d'Allah est d'accomplir les obligations. Ensuite, deuxième degré, وَلَا يَزَالُ عَبْدِ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes qu'il fait supplémentaires jusqu'à ce que je l'aime. Ce n'est pas pour rien que ces deux catégories de personnes, ceux qui font les obligations, puis ceux qui font, ou celles qui font les obligations, puis celles qui font les actes supplémentaires recommandés, ont été cités juste après avoir parlé de l'allié d'Allah Azza wa Jal pour lequel Allah déclare la guerre à celui qui le prend en ennemi. Pour nous montrer le mérite de l'allié d'Allah, et ensuite qui est-il? L'allié d'Allah est celui qui fait les obligations et qui fait ensuite les actions supplémentaires. Donc l'allié d'Allah n'est pas celui qui prétend, qui se contente de dire « Nous irons tous au paradis, on sera pardonnés », etc. Et quand tu regardes, tu ne vois aucune action dans la personne. Elle ne suit pas la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Elle ne suit pas le Coran. Elle ne concrétise pas le tawhid. Cela ne lui sera d'aucune utilité de prétendre. Et c'est la voix des gens de l'ère pré-islamique. Pour cela, Allah Azza wa Jal les a blâmés dans ces quelques versets que nous venons de lire. Allah Azza wa Jal a dit, en réponse à ceux-là qui ont dit, le feu ne nous touchera que quelques jours. قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدًا أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Dit, avez-vous pris l'engagement d'Allah pour tenir ce genre de propos? Vous avez reçu un engagement de la part d'Allah, il s'est engagé à ne vous châtier que quelques jours. Avez-vous pris un engagement de la part d'Allah de sorte à ce qu'Allah ne trahisse pas son engagement? Ou dites-vous d'Allah ce que vous ne savez pas? C'est bien entendu la seconde. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Regardez la réponse d'Allah Azza wa Jal. Plutôt, quiconque commet un péché et se voit entouré de sa faute, de son péché, ceux-là sont les gens du feu où ils demeureront éternellement. Ça, c'est la réponse à la prétention qu'ils ont faite. Et Allah Azza wa Jal a dit, أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. Allah Azza wa Jal dit dans le sens des versets, n'as-tu pas vu ceux qui ont reçu une part du livre lorsqu'ils sont appelés au livre d'Allah pour qu'ils soient juges entre eux? Ils se détournent, une partie d'entre eux se détournent. Il en est ainsi car ils ont dit, le feu ne nous atteindra que quelques jours. Et ce qu'ils forgeaient comme mensonge dans la religion les a trompés. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ. Qu'adviendra-t-il lorsque nous les réunirons pour un jour au sujet duquel il n'y a nul doute? وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Et que chaque âme recevra pleinement ce qui correspondra à ce qu'elle a acquis, sans être lésée. Il n'y a pas de prétention dans la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal a dit aussi, « Laysa bi amaniyikum, wala amaniyi ahli al-kitab, man ya'mal su'an yujzabih. » Dans le sens rapproché du verset, Allah a annulé leurs fausses leur faux souhait. Et que la question n'est pas dans vos souhaits, ni les souhaits des gens du livre. Quiconque fait un mal sera rétribué pour celui-ci. Voici la règle d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'auteur rahimahullah dit ensuite Al-mas'alatu thamanoun, question 80. Ittikhaduhum ou ittikhadu quburi anbiya'ihim wa salihihim masajid. Les gens de l'ère pré-islamique avaient pour habitude de faire des tombes de leurs prophètes et des gens vertueux de leur communauté des lieux de culte, des lieux d'adoration. Des lieux d'adoration, cela se manifeste sous deux aspects. Le premier, c'est le fait de construire sur la tombe, des lieux d'adoration. Le deuxième, c'est le fait de se recueillir auprès de cette tombe, même si l'on n'y a rien construit. Il ne s'agit pas que de construire. Il y a certes le fait de construire, comme construire des mosquées au-dessus des tombes, ce qui est interdit, et ce qui est un moyen qui emmène au chiouk sans le moindre doute, mais il y a aussi le fait d'aller se recueillir près de la tombe d'un tel ou un tel, même si on n'y construit rien. Cela aussi fait partie de prendre le lieu comme un masjid, comme un lieu d'adoration. Ceci car le prophète alayhi salatu wasalam a dit « Ju'ilat liya al-ardu masjidan wa tahura » On a fait de la terre pour moi un masjid. C'est-à-dire toute la terre est un lieu de prière. Et pourtant, il y a des endroits où il n'y a pas de mosquée dans toute cette terre. Mais dès lors que l'on peut prier dans cette terre, l'on peut adorer Allah dans cet endroit, on peut donner l'appellation de masjid à cet endroit, même si on n'y a rien construit, comme on le trouve dans ce récit-là. Bien sûr, il y a deux endroits où on ne peut pas prier, ce sont les tombes, les al-hammam, les WC, les endroits où l'on accomplit les besoins. À part ça, tu peux adorer Allah Azza wa Jalla dans les autres endroits, et aussi dans les endroits où il y a autre qu'Allah qui est adoré, comme on voit dans le Kitab al-Tawhid. Ala kulli hal, quoi qu'il en soit, ces gens-là, lorsque leurs gens pieux de leur époque mouraient, que faisaient-ils? Ils se recueillaient auprès de leur tombe, ou alors ils élevaient des constructions sur celle-ci. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons pour les sensibiliser sur cette dangerosité. Inna man kana qablakum kanu yattakhidun al-qubur masajid. Ceux qui étaient avant vous faisaient des tombes des mosquées, des lieux d'adoration. Ala fala tattakhidu al-qubur masajid. Quant à vous, ne faites pas des tombes des lieux d'adoration. Regardez bien, chers frères. Vous entendez à notre époque les détracteurs de la vérité dire: vous êtes toujours en train de dire l'adoration des tombes, vous ne parlez que des tombes, on n'adore pas de tombes ici. On n'a pas besoin de parler de ça constamment et tout le temps. N'est-ce pas? Que dirait-il au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui met en garde les compagnons à plusieurs reprises contre l'adoration des tombes? Dans une époque où l'adoration des tombes n'existe pas, dans le sens où le prophète alayhi salat wa salam a éradiqué le shirk. Une fois que l'islam est apparu, il a enlevé le shirk alayhi salat wa salam par la permission d'Allah azza wa jal. Et pourtant, il dit à ses compagnons qui sont les meilleurs des croyants, ceux au tawhid le plus complet, à la fois la plus forte et la plus élevée, prenez garde à l'adoration des tombes, prenez garde à construire sur les tombes, prenez garde à adorer à côté des tombes. Et il leur répète et répète, et il le dit même jusqu'à quelques jours avant de mourir. Qu'est-ce que les gens, les détracteurs de la vérité aujourd'hui, diraient au prophète alayhi salat wa salam s'il était devant eux et leur dirait: prenez garde à l'adoration des tombes? Que dire maintenant alors de notre époque où l'adoration des tombes est répandue dans tous les pays, dans tous les endroits. Et dans certains, les gens sont coulés dans l'adoration des tombes. Et on ne doit pas conseiller les gens. On ne doit pas propager le message d'Allah Azza wa Jal. Et on ne doit pas dire aux gens d'arrêter de croire qu'en allant dans la tombe de Abdul Qadir al-Jilani, de Ahmad Oubamba, de Ahmad al-Tijani, de Zainab, de Fatima, de Aïcha, je ne sais pas les compagnons là, c'est des gens pieux de notre époque qui sont adorés ces noms-là. Et ainsi de suite. On ne doit pas dire aux gens d'arrêter ces actions et de lever leurs mains à Allah Azza wa Jal. On ne doit pas dire aux gens d'arrêter d'adorer celui qui est en dessous de la terre pour adorer celui qui est au-dessus du ciel, Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr que si. Et ça, c'est la voie des gens de la sunna. Parce que les gens de la sunna ne recherchent pas un intérêt mondain. Les gens de la sunna veulent plaire à Allah. Les gens de la sunna veulent que les gens disent la ilaha illallah et le comprennent. Les gens de la sunna veulent que les gens lèvent leurs mains à Allah. Ils n'attendent rien des gens. Ils veulent se réjouir en voyant les gens lever leurs mains et dire ya hayu ya qayyum. C'est tout ce qu'ils veulent. Ils veulent se réjouir en voyant les gens dire ya Allah et pas ya Muhammad et non plus ya Ahmed et ya un tel. Voilà ce à quoi appellent les gens de la sunna, les gens du haq, depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la nôtre. Le prophète alayhi salatu wa sallam, lorsque Ummu Salama et Ummu Habiba radiyallahu ta'ala anhuma, deux des femmes de Sahaba radiyallahu anhum jami'an, ont fait la première immigration vers l'Abyssinie, l'Éthiopie actuelle. Qu'est-ce que ces deux femmes ont vu là-bas? Elles ont raconté avoir vu dans la terre de Al-Habasha de l'Abyssinie des églises ornées, c'est-à-dire avec des décorations. Et elles y ont vu des images, des représentations. Elles ont mentionné cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salatu wa sallam leur a dit: Oulaika qawmun idha mata fihim ar-rajul as-salih. Ces gens-là sont un peuple qui, lorsqu'un des gens pieux mourait dans leur époque, ou l'abd as-salih, ou un serviteur pieux, banaw ala qabrihi masjida. Ils construisaient sur leur tombe un lieu d'adoration. وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرُ. Et ils y mettaient ces représentations. أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ. Le prophète alayhi salatu wasalam dit: ceux-là sont les plus mauvais de la création d'Allah. Subhanallah. Ils sont les pires des créatures d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et à notre époque, dans le soufisme et ceux qui les suivent, on les voit adorer des tombes, on les voit adorer des gens, et ils justifient cela en disant que ce ne sont que des intermédiaires entre eux et Allah. Et Allah Azza wa Jalla a aussi blâmé cet agissement dans le Coran, lorsqu'il dit وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Et ils adorent ce qui ne les nuit en rien, ni ne leur tire aucun profit, et disent: ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Et d'autres versets encore où Allah blâme ses agissements. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, dit Al-Mas'alatu al-Hadiyatu al-Thamanun. La question 81. Je voulais juste citer quelque chose. À l'époque de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, il vit le noble compagnon Anas ibn Malik, radiyallahu anhu. Anas priait sans le savoir, en direction d'une tombe. Il ne savait pas qu'il y avait une tombe. Omar l'a vu, radiyallahu anhu. Et quand il l'a vu, a-t-il dit Anas ne sait pas, il n'y a pas de problème? Non, mais plutôt il a crié Al-Qabr, Al-Qabr, la tombe, oh Anas, la tombe. Regardez comment étaient les sahaba. Ils fermaient toutes les portes menant au shirk, au polythéisme. Walhamdulillah. L'auteur Rahimahullah dit, la question 81 ou 81, اتخاذ آثار أنبيائهم مساجد كما ذكر عن عمر رضي الله عنه. Les gens de l'après islamique faisaient des, ce qu'on appelle cela les vestiges. Les vestiges, non? Quelque chose que l'on a laissé. Non, pas les vestiges. Les gens de l'ère pré-islamique construisaient des endroits d'adoration ou se consacraient à l'adoration dans des endroits où des faits se sont déroulés avec des prophètes. C'est-à-dire que quand ils savaient qu'un prophète, par exemple, était passé par tel endroit, s'était assis à tel endroit, avait fréquenté tel endroit, ils allaient s'y recueillir. Pareil pour les gens pieux. Je vous donne un exemple contemporain. La grotte de Hira à Mecca, la grotte où le prophète alayhi salatu wasalam se recueillait pour s'isoler de son peuple de polythéistes jusqu'à ce qu'Allah lui révèle dans cette grotte les 5 premiers versets de Surat Al-Alaq. Et aujourd'hui, les gens se rendent dans cette grotte, ils y accomplissent des prières, ils y invoquent Allah Azza wa Jal, ils se frottent à ces murs, ils écrivent leur nom sur les murs. Ce sont des actions de l'ère pré-islamique. Le fait de garder des souvenirs d'endroits ou de choses qui ont été fréquentées par les messagers ou par les gens pieux et d'en faire des endroits bénis où l'adoration est propice. Comme par exemple, ici il nous dit, comme cela a été mentionné de Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, car il est connu dans la Sira que les compagnons ont prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un endroit particulier, en dessous d'un arbre. Et c'est pourquoi on appelle Allah Azza wa Jalla l'a cité dans Surat Al-Fath. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. Allah a agréé les croyants qui te prêtaient allégeance sous l'arbre. Ils étaient en dessous d'un arbre. Et lorsque le temps est passé, qu'est-ce que Omar ibn Khattab radiyallahu anhu a remarqué? Il a remarqué que ces gens-là allaient se consacrer à l'adoration en dessous de cet arbre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé l'arbre et là, il s'en est débarrassé. Immédiatement. Afin que les gens ne s'y attachent pas. Et c'est ainsi que les gens du Tawhid ont toujours agi. Là où il y avait du shirk, ils allaient appeler les gens au Tawhid et ils enlevaient ces choses-là. Et le shirk Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh, rahimahullah ta'ala, le grand savant, la montagne de science, le professeur et l'enseignant du shirk Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullah, à son époque, il y a eu une grande tempête à tel point où l'eau a atteint un niveau très élevé et elle a causé des ravages dans un cimetière. Que s'est-il passé? Des gens pieux racontent, c'est une histoire qui est vraie, hein, des gens pieux racontent qu'avec l'eau et la tempête, il y a un corps qui est sorti de la tombe. Ce corps était intact. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ça peut arriver, vous l'avez entendu dans l'Aqidat al-Wasitiyya et dans plein de livres qu'Allah nous a facilité d'enseigner, ce que l'on appelle le karamat, les choses qui sortent de l'ordinaire. Et ils sont venus le voir et lui ont dit, il s'est passé quelque chose d'étrange, on a trouvé un corps. Semblerait-il qu'il a été enterré il y a de cela de très longues années, mais il est intact. Ils lui ont décrit, et lui était aveugle, rahimahullah. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, allez de nuit, l'enterrer au milieu, et ne n'y laissez aucune trace. Pourquoi? Ils ont été en pleine nuit, ils ont creusé un trou au milieu du cimetière, ils ont enterré ce corps, recouvert, ils n'ont laissé aucune trace, et n'en parler à personne. Pourquoi? Justement, de peur que les gens se disent, c'est le pieux de telle et telle chose, alors les gens allaient se rendre auprès de sa tombe pour l'adorer. Et le cheikh Mohammed bin Ibrahim, rahimahullah, a dit, Il se peut, Wallahu a'lam, Allah est plus savant, que ce soit un de ceux parmi les Sahaba qui avaient combattu à l'époque de l'Yamama contre Musaylama al-Kadhab. Il y a une grande guerre entre lui et les musulmans. Donc regardez les ulama. Et à toute époque, chaque fois qu'ils entendaient qu'il y avait telle et telle chose, ils disaient, cachez-le, enlevez-le. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent à travers cela? Ils veulent que les gens se dirigent vers Allah. Subhanahu wa ta'ala, ils ne veulent rien d'autre. C'est ça leur souci. Et c'est ça le souci de celui qui appelle les gens à l'unicité d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Le cheikh Salah al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit « Amma al-amakinu allati qasadaha al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam al-tashri' مثل صلاته عند مقام إبراهيم عملا بقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فإنها تشرع الصلاة فيها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. Quant aux endroits où le prophète a été عليه الصلاة والسلام dans le but d'adorer Allah parce que cet acte a été prescrit par Allah, alors oui, il faut le faire. Comme lors de l'accomplissement de la Umrah, après avoir tourné 7 fois autour de la Kaaba, on doit accomplir 2 unités, 2 raka'a, derrière le maqam Ibrahim. Là, on ne dira pas que c'est une porte au shirk, parce que ça, c'est quelque chose qui est prescrit par Allah. Seulement, les gens qui, après ces 2 raka'a, vont se frotter sur ce maqam, sur cet endroit-là, eux, ils entrent dans cet interdit. L'auteur rahimahullah dit ensuite, et c'est la dernière, al-mas'alatu thaniyatu, c'est-à-dire la dernière de notre assise, al-mas'alatu thaniyatu wa thamanoun, la question 88, ittikhadu suruj, 82, na'am, ittikhadu suruji ala al-qubur. La question 82, c'est le fait qu'ils mettaient sur les tombes, et ils le font encore, des bougies et des lampes éclairantes. Ils illuminaient les tombes. Et dans cette façon d'agir, il y a une grande fitna pour les gens. Parce que les gens qui sont attirés par le shirk, qui sont faibles d'esprit, qui sont ignorants, lorsqu'ils voient des endroits où l'on voit des bougies, des lumières, des lampes allumées, c'est une ruse de shaitan qui les attire. Ils penchent vers ce genre de choses. C'est pour ça qu'ils mettent des bougies dans les tombes et dans certains endroits d'adoration. Mais dans l'islam, on n'utilise pas cela. Et dans l'islam, on ne met pas de bougies, encore moins dans une tombe. À quoi sert le fait de mettre une bougie dans une tombe? Ils agissaient ainsi, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La'ana Allahu za'irat al-qubur » والمتخذين عليها المساجد والسروج. Qu'Allah maudisse celles qui visitent les tombes et ceux qui les prennent comme lieu de culte et y mettent des bougies. Ils sont maudits par Allah subhanahu wa ta'ala. Ils s'exposent à la la'na, à la malédiction. Et qu'est-ce que c'est la malédiction d'Allah? At-tardu wal-ib'adu 'an ar-rahmah. Le fait d'être exclu et écarté de la miséricorde d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que comme nous dit le Cheikh, li annahu min asbab shirk. Car cela est une cause de shirk pour inviter les gens ou pour attirer les gens au polythéisme. Et en réalité, dans les tombes, à notre époque, c'est beaucoup de choses qui sont tout aussi étonnantes les unes que les autres que nous voyons. On voit par exemple les bougies, ou alors des parures et des rideaux qui vont être mis et suspendus au-dessus des mausolées avec des couleurs et des écritures. Car cela fait éveiller les émotions des gens de la masse qui sont ignorants. Et ces actions sont maudites par Allah subhanahu wa ta'ala. On va s'arrêter ici aujourd'hui, inshallah. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيك